Brève digression. L'histoire des jobs de pure forme et de l'idée qu'on peut acheter le temps d'autrui. Le patron. Vous faites quoi, là? Pourquoi vous n'êtes pas en train de travailler? L'employé. Il n'y a rien à faire. Le patron. Peut-être, mais vous êtes censé faire semblant de travailler. L'employé. Vous savez quoi? J'ai une meilleure idée. Vous n'avez qu'à faire semblant de croire que je suis en train de bosser. Après tout, vous gagnez plus que moi. Sketch de Bill Hicks. La découverte de la joie d'être cause a conduit Gross à concevoir une théorie du jeu. L'homme, à travers le jeu, jouerait à faire semblant. Ce qui le pousse à inventer des jeux et des divertissements serait exactement la même chose que ce qui ravit l'enfant lorsqu'il se rend compte qu'il est capable de déplacer un crayon. Nous cherchons à exercer nos pouvoirs comme une fin en soi. Et le fait que la situation soit artificiellement créée n'amoindrit en rien ce que nous en retirons. C'est juste un niveau de complexité supplémentaire dans le stratagème. Pour Gross, qui rejoint là le philosophe romantique allemand Friedrich Schiller, c'est exactement en cela que consiste la liberté. Schiller estime lui aussi que le désir de création artistique n'est qu'une manifestation de notre besoin irrépressible de jouer, comme une mise en pratique de la liberté pour elle-même. Bien entendu, je simplifie la philosophie de Schiller à l'extrême pour les besoins de l'exposé. La liberté, c'est de pouvoir inventer des trucs juste pour se confirmer qu'on est capable de le faire. Or, on se rappelle que nos étudiants employés, Patrick et Brendan, étaient précisément exaspérés par la dimension de simulacre de leur job. D'ailleurs, quiconque a un emploi salarié étroitement encadré trouvera que cette dimension est la plus difficile à supporter. Travailler sert ou devrait servir à quelque chose. Être obligé de faire semblant de travailler juste pour dire qu'on travaille est on ne peut plus frustrant. Car cette exigence est perçue à raison comme une simple démonstration du pouvoir pour le pouvoir. Si jouer à faire semblant est la plus pure manifestation de la liberté humaine, être contraint de simuler le travail est la plus pure manifestation de son absence. Aussi n'est-il guère surprenant que, historiquement, les premières catégories de population que l'on est obligé à travailler en permanence, y compris lorsqu'il n'y avait rien à faire, allant jusqu'à leur inventer des tâches inutiles pour les maintenir occupés, étaient des populations privées de liberté, les prisonniers et les esclaves, deux ensembles qui, à bien des époques, se sont recoupés. Il serait passionnant d'écrire une histoire du travail de pure forme et de déterminer quand et comment l'oisiveté a commencé à être vue comme un problème, voire comme un péché. C'est sans doute un projet impossible. Et je ne crois pas qu'il ait jamais été entrepris. En tout cas, à en croire les données dont nous disposons, la variante moderne de ce travail factice, celle que dénoncent Patrick et Brendan, est d'apparition récente. On le comprend lorsqu'on examine ce qui a été de tout temps considéré comme le rythme normal du travail humain, c'est-à-dire l'enchaînement de phases suivantes. 1. Explosion intense d'énergie. 2. Relâchement. 3. L'entreprise conduisant à un nouvel épisode frénétique. C'est ainsi que fonctionne le travail agricole. En dehors des semailles et des récoltes, périodes de forte agitation qui appellent une mobilisation générale, des saisons entières sont essentiellement consacrées à des tâches au long cours, surveillance, réparation, entretien et autres besognes mineures. Nos activités quotidiennes ordinaires, mais aussi des entreprises plus ambitieuses, comme la construction d'une maison ou la préparation d'un banquet, suivent le même type de schéma. Ce que j'appelle l'hystérie intermittente de l'étudiant, travail modéré la majeure partie du temps, bachotage forcené à la veille des examens, puis nouveau relâchement, est aussi typique de ce modèle éternel. C'est la façon dont les humains s'acquittent de leurs obligations quand personne ne les force à se comporter différemment. Certains étudiants tombent dans des versions caricaturales de cette tendance, mais les plus malins d'entre eux trouvent le moyen de maintenir ces oscillations d'activité dans des limites raisonnables. Tout individu, maître de son temps, va invariablement se conformer à ce rythme de travail, et rien n'indique que le forcer à agir autrement améliorera son efficacité ou sa productivité. Souvent, cela aura précisément l'effet inverse. Bien sûr, certaines tâches plus spectaculaires que d'autres se prêtent davantage à cette alternance de frénésie intense et de relative torpeur. Cela ne date pas d'hier. La chasse au gros gibier est une activité plus exigeante que la cueillette de légumes, même pratiquée sur un mode sporadique. Et bâtir une maison donne lieu à une plus grande débauche d'efforts héroïques que de la nettoyer. Comme on le comprend à la lumière de ces exemples, il existe une sorte de constante dans les sociétés humaines. Les hommes vont essayer de monopoliser les travaux les plus passionnants et les plus extraordinaires, et généralement y parvenir. Ils vont allumer les brasiers destinés à réduire en cendres la forêt sur laquelle ils entendent établir leurs plantations, puis laisser aux femmes le soin de désherber, une besogne infiniment plus monotone et chronophage. On pourrait résumer les choses ainsi. Les hommes accaparent systématiquement les tâches qui leur procurent des histoires à raconter après coup, et tentent d'affecter les femmes aux activités qui permettent de se raconter des histoires pendant. Cela se vérifie d'autant plus que la société est plus patriarcale et que les hommes exercent un plus grand pouvoir sur les femmes. Ce modèle tend à se reproduire dès qu'un groupe en domine clairement un autre, à de très rares exceptions près. Le métier des seigneurs féodaux, si tant est qu'on puisse considérer qu'ils travaillaient, était d'être des guerriers. Je laisse de côté les fonctions d'encadrement relatives à la gestion de leur domaine. Il n'est pas certain qu'elles aient été considérées comme du travail à l'époque. Je pense que non. Leur vie était constituée de faits d'armes exceptionnels qui ponctuaient des périodes de total désœuvrement et de léthargie absolue. Bien évidemment, on exigeait un labeur plus constant des paysans et des serviteurs. Cependant, même dans leur cas, l'emploi du temps n'avait rien à voir avec la régularité et la rigueur des horaires de bureau qu'on connaît aujourd'hui. Le cerf médiéval lambda, homme ou femme, trimait sans doute du lever au coucher du soleil pendant 20 à 30 jours par an, mais ne devait fournir que quelques heures de travail quotidien le reste du temps, sauf lors des fêtes religieuses où il ne travaillait pas du tout. Et les fêtes religieuses n'étaient pas rares. Ce rythme saccadé tenait à un facteur principal. Le travail échappait largement à toute surveillance. Pas seulement dans la société féodale médiévale. C'était vrai de la plupart des arrangements professionnels, partout, jusqu'à une époque relativement récente, y compris les arrangements d'une criante inégalité. Tant que les travailleurs de la base produisaient ce qu'on exigeait d'eux, ceux d'en haut ne s'inquiétaient pas vraiment de savoir ce que cela impliquait. Les relations hommes-femmes l'illustrent très clairement. Plus la société est patriarcale, plus les hommes et les femmes tendent à évoluer dans des zones bien séparées. De ce fait, les hommes ne sont guère susceptibles de connaître quoi que ce soit du travail des femmes, ce qui les rend à coup sûr incapables de l'exécuter si celles-ci viennent à disparaître. À l'inverse, les femmes sont généralement bien au fait des tâches des hommes et se débrouillent sans mal lorsque ces derniers, pour une raison quelconque, se volatilisent. Ainsi, dans de nombreuses sociétés, une très large proportion de la population masculine pouvait se faire la malle pendant de longues périodes, que ce soit pour aller combattre ou commercer, sans qu'on constate aucune perturbation majeure. Au sein des sociétés patriarcales, quand les femmes sont encadrées, c'est par d'autres femmes. Quelle est l'idée sous-jacente, sinon que les femmes, contrairement aux hommes, doivent faire en sorte de toujours s'occuper ? L'oisiveté est mère de tous les vices, répétait mon arrière-grand-mère à sa fille quand celle-ci était enfant en Pologne. Par son message implicite, ce sermon traditionnel se distingue assez nettement de l'injonction moderne. Si tu as le temps de souffler, tu as le temps de récurer. En effet, l'idée n'est pas « tu devrais travailler », mais bien « tu ne devrais faire rien d'autre que cela ». En substance, mon arrière-grand-mère affirmait que, quoi qu'elle puisse fabriquer quand elle n'était pas occupée à tricoter, une adolescente grandissant dans un shtetl polonais ne pouvait que s'attirer des ennuis. Au XIXe siècle, Les propriétaires de plantations du Sud-Américain ou des Caraïbes formulaient des avertissements similaires. À la morte saison, mieux vaut garder les esclaves affairés, même s'il faut pour cela leur inventer des tâches de toutes pièces, plutôt que de les laisser se tourner les pouces. Sinon, on s'expose à les voir fomenter des évasions ou des révoltes. Une moralité très différente dicte les réflexions modernes du type « tu bosses pour moi et je ne te paie pas pour lézarder ». Ce qu'elles expriment, c'est l'indignation d'un patron floué, car un travailleur n'est pas propriétaire de son temps. Celui-ci appartient à la personne qui l'a acheté. Dès lors, chaque minute que l'employé ne passe pas à travailler est considérée comme volée à son employeur qui a payé cher ou promis de payer cher à la fin de la semaine pour l'acquérir. Dans cette logique, l'oisiveté n'est pas dangereuse, mais criminelle. Ce n'est ni plus ni moins qu'un vol. Pourtant, l'idée que le temps d'une personne puisse appartenir à une autre est si étrange qu'elle aurait été inconcevable dans la plupart des sociétés humaines à toutes les époques. C'est ce que nous rappelle le grand spécialiste de l'Antiquité Moses Finlay. Face à l'étal d'un potier, un Grec ou un Romain pouvait envisager d'acheter ses poteries, voire d'acheter le potier lui-même. L'esclavage était alors assez répandu. Mais ils vous auraient regardé avec des yeux ronds si vous leur aviez suggéré qu'ils pouvaient acheter son temps. Finlay souligne que se représenter une telle chose exigeait deux sauts conceptuels qui déroutaient même les juristes romains les plus raffinés. Il fallait en premier lieu faire de la capacité de travail du potier, sa force de travail, un élément distinct de sa personne. Puis, en second lieu, imaginez un moyen de la déverser dans des contenants temporels uniformisés, heures, jours, horaires en rotation, susceptibles d'être achetés avec de l'argent liquide. À coup sûr, un Athénien ou un Romain ordinaire aurait jugé de telles idées bizarres, exotiques, voire mystiques. Comment peut-on acheter le temps? C'est une abstraction. Ce qu'ils auraient pu éventuellement concevoir, c'était de louer le potier comme esclave pour une durée limitée, mettons une journée, pendant laquelle celui-ci se serait plié à tous les désirs de son maître. Mais il leur aurait sans doute été impossible de trouver un potier disposé à accepter un tel arrangement. Être asservi, forcé d'abandonner votre libre arbitre et de devenir l'instrument de quelqu'un d'autre, même à titre temporaire, était considéré comme la chose la plus dégradante qui puisse vous arriver. On rencontre des cas de travail salarié dans le monde antique, mais ils concernent, pour une écrasante majorité, des personnes qui étaient déjà esclaves. Ainsi, un esclave potier pouvait convenir avec son maître qu'il travaillerait dans une fabrique de céramique et lui enverrait la moitié de son salaire, gardant l'autre moitié pour lui. Les esclaves pouvaient aussi, à l'occasion, exécuter des travaux gratuits sous contrat, travailler comme porteur sur les docks, par exemple, ce qu'un homme ou une femme libre n'aurait jamais fait. C'est resté vrai assez longtemps. Au Moyen Âge, le travail salarié était encore typique de villes portuaires commerçantes, comme Venise, Malacca ou Zanzibar, et il s'y réduisait presque entièrement à du travail forcé. Comment en sommes-nous arrivés à la situation actuelle, où il est considéré comme complètement naturel dans des pays pourtant démocratiques, que des citoyens libres se louent de cette manière, ou qu'un patron s'indigne si ses employés ne travaillent pas chaque minute de son temps. Pour commencer, il a fallu qu'un changement se produise dans la conception commune du temps. Depuis des siècles, grâce à l'observation des cieux, les hommes sont familiers de l'idée de temps absolu ou sidéral. Les événements célestes se produisent avec une prédictibilité infaillible, ce qui donne le sentiment qu'ils relèvent du domaine de la perfection. Mais si les prêtres ou les moines peuvent organiser leur vie autour du temps céleste, la vie sur Terre, elle, est considérée comme plus compliquée. Ici-bas, il n'existe aucun étalon absolu. Prenons un exemple évident. S'il y a 12 heures entre le lever et le coucher du soleil, cela n'avance pas à grand-chose de savoir qu'un lieu donné est à 3 heures de marche, tant qu'on ignore à quelle saison se déroule le voyage, puisque les heures d'hiver seront moitié moins longues que les heures d'été. À Madagascar, j'ai constaté que les habitants des zones rurales ne faisaient guère usage des montres. Le plus souvent, ils mesuraient les distances à la manière ancienne. Marcher jusqu'à tel village prendra la cuisson de 2 marmites de riz. De même, dans l'Europe médiévale, on pouvait dire qu'une tâche prenait 3 Notre Père ou 2 fois la cuisson d'un œuf dur. Dans tous ces cas, ce sont les actions qui permettent de mesurer le temps, et non le temps qui permet de mesurer les actions. L'anthropologue Edward Evan Evans Pritchard a fait un constat semblable dans son livre classique sur les Nuées, un peuple pastoral d'Afrique de l'Est. Les Nuées n'ont aucune expression équivalente au temps de nos langues à nous, et se trouvent donc incapables de parler du temps comme de quelque chose de réel, qui passe, que l'on peut perdre, que l'on peut gagner, et ainsi de suite. Je ne crois pas qu'ils éprouvent jamais ce sentiment de lutter contre la montre ou d'ajuster leurs activités à un passage abstrait du temps. Leurs points de repère, ne sont-ils pas surtout les activités elles-mêmes ? Or, ces activités ont en général des allures de loisirs. Les événements suivent un ordre logique, mais nul système abstrait ne les encadre, en l'absence de points de repère autonomes auxquels ces activités devraient se conformer avec précision. Les Nuées ont bien de la chance. Le temps n'est pas une grille permettant de mesurer le travail. C'est le travail lui-même qui est la mesure. L'historien anglais E.P. Thompson, auteur en 1967 d'un formidable texte sur les origines de la conception moderne du temps, note que celle-ci résulte de changements moraux autant que technologiques qui se sont entraînés les uns les autres. Au XIVe siècle, on ne trouvait presque pas une seule ville européenne qui ne fût dotée de sa tour d'horloge, dont l'édification avait en général été encouragée et financée par la corporation des marchands locales. Ces mêmes marchands avaient aussi l'habitude de placer des crânes humains sur leurs bureaux en guise de memento mori, une manière de se rappeler qu'ils devaient faire bon usage de leur temps, car chaque carillon de l'horloge les rapprochait de la mort. Il a fallu attendre bien plus longtemps pour voir se diffuser les horloges domestiques, puis les montres à gousset. Mais une fois leur usage généralisé, ce qui a coïncidé avec le début de la révolution industrielle dans les dernières années du XVIIIe siècle, des attitudes similaires ont commencé à se répandre dans les classes moyennes. Le temps sidéral, c'est-à-dire le temps absolu des cieux, descendu sur Terre, s'est mis progressivement à réglementer toutes les activités quotidiennes, y compris les plus intimes. En outre, le temps était à la fois une grille fixe et une possession. Chacun était incité à le considérer à la façon des marchands du Moyen-Âge, comme une ressource limitée qu'il convenait de gérer et dépenser avec prudence, au même titre que l'argent. Simultanément, grâce aux progrès techniques, il est devenu possible de découper le temps de vie terrestre d'un être humain en unités homogènes susceptibles d'être achetées et vendues pour de l'argent. Le temps étant désormais de l'argent, on a pu commencer à parler de gaspiller ou tuer le temps, gagner ou perdre du temps, courir après le temps, etc. Les pasteurs puritains, méthodistes et évangéliques se sont bientôt employés à inculquer à leurs ouailles la gestion du temps, suggérant qu'une sage administration de son temps était la base d'une vie morale. Les usines ont instauré des pointeuses dans lesquelles les ouvriers inséraient des cartes à perforer à leur arrivée et à leur départ. Les écoles de charité, où les enfants pauvres apprenaient la discipline et la ponctualité, ont cédé la place à des systèmes d'enseignement public qui rassemblaient des élèves de toute classe sociale, obligés de se lever et de changer de salle toutes les heures au son d'une cloche, un rituel sciemment conçu pour les former à leur future vie de salariés en usine. La discipline de travail moderne et les techniques de supervision capitaliste ont aussi leur histoire, puisque des formes de contrôle total ont été développées sur les navires de commerce et dans les plantations esclavagistes des colonies avant d'être imposées aux travailleurs pauvres en métropole. Mais tout cela n'a été possible que grâce à la nouvelle conception du temps. C'est en ce sens qu'il s'agit d'un changement à la fois technologique et moral. On en attribue souvent la responsabilité au puritanisme, et incontestablement, celui-ci n'y est pas étranger. Cependant, les variantes les plus radicales de l'ascétisme calviniste n'étaient que des versions poussées à l'extrême d'une nouvelle notion du temps qui redéfinissait les sensibilités des classes moyennes dans l'ensemble du monde chrétien. Ainsi, au XVIIIe et au XIXe siècle, en Angleterre d'abord, l'organisation saccadée du travail, qui avait toujours eu cours jusque-là, a commencé à être vue comme un problème social. La bourgeoisie a décidé que les pauvres devaient prioritairement leur situation au fait qu'ils n'avaient aucune discipline de travail. Ils dépensaient leur temps de manière irréfléchie, de la même façon qu'ils dilapidaient leur argent au jeu. Parallèlement, les travailleurs qui luttaient contre leur propre exploitation ont adopté un vocabulaire identique. Dans les toutes premières usines, on leur interdisait souvent de porter une montre, et pour cause. Le patron trafiquait régulièrement l'horloge de l'atelier. Bientôt, les conflits avec les employeurs se sont mis à tourner autour des taux horaires. Les ouvriers réclamaient des contrats comportant un nombre d'heures fixes, la rémunération des heures supplémentaires, d'abord au taux normal, puis à un taux majoré de 50%. La journée de 12 heures, enfin celle de 8. Dans ce contexte, il était incompréhensible qu'ils demandent à avoir du temps libre. Mais cette revendication a eu pour effet subtil de renforcer l'idée que le temps d'un salarié appartient à la personne qui l'a acheté. Un concept que leurs arrière-grands-parents et quiconque jusque-là auraient jugé pervers et monstrueux.